Savoie-nous. Cette semaine, Antoine Beauchamp rencontre Jean-Pierre Luminet. Ce soir, la forme de l'univers.
Bonsoir Jean-Pierre Luminet.
Bonsoir.
On s'est quitté hier en parlant de la première image du trou noir qui a été révélée au monde en printemps 2019, une image que vous aviez anticipée au début des années 80. Durant toutes ces années 80, vous avez consacré vos travaux de recherche en partie au trou noir. Ça a été l'occasion de la parution de votre premier livre de vulgarisation scientifique en 1987, intitulé sobrement « Les trous noirs », qui a été un best-seller traduit dans tout le monde. J'aimerais comprendre un peu comment vous avez donner suite à ces recherches sur les trous noirs et comment vous avez affiné vos travaux de recherche en lien avec ces astres qui gardent tout, y compris la lumière.
Il faut bien voir qu'à la toute fin des années 70, et après dans les années 80, les trous noirs commençaient enfin à devenir un des sujets de recherche absolument fondamentaux, non seulement en relativité générale, mais très généralement dans la physique fondamentale, sous l'impulsion des plus brillants physiciens théoriciens de l'époque. Alors, il y avait l'école de Cambridge, avec Stephen Hawking, Roger Penrose, Brandon Carter.
Stephen Hawking, que vous avez rencontré.
Qui en était issu, que j'avais rencontré, j'en dirai un mot. Et puis également, il y avait l'école américaine avec le grand John Archibald Wheeler, qui a donné lui-même d'ailleurs beaucoup de terminologie. Le terme de trou noir black hole, c'est lui qui l'a proposé. Les wormholes, les trous de verre, c'est lui également qui l'a proposé. Donc, un esprit également extraordinairement créatif. Voilà. Et alors, en fait, oui, si je parle de ça, c'est parce que ça, j'avais omis de le dire dans une émission précédente, mais au tout début de ma vie de jeune chercheur, lorsque Brandon Carter m'avait proposé ce sujet de thèse sur les singularités absolument intraitables, et que j'avais pas vraiment encore à l'époque, j'étais pas très, très bien reçu, je dois dire, par le groupe d'astrophysique relativiste de l'Observatoire de Paris, donc j'avais pas de bureau, je travaillais un petit peu chez moi dans ce petit studio, c'était pas très commode, et Brandon Carter m'avait dit, demande une bourse du British Council et tu pourras passer quelques mois à Cambridge dans le laboratoire, le fameux laboratoire où travaille Stephen Hawking et d'autres, parce qu'en plus il y a un grand colloque qui va être organisé, un centenaire de, je sais pas, de la relativité générale, quelque chose comme ça. Non, c'était avant, mais enfin bon, peut-être je crois de la naissance d'Einstein, plutôt, exactement, oui. Et donc il y avait tous les grands relativistes qui vont venir. Alors d'accord, donc j'ai obtenu ma bourse et je suis allé passer 3 mois effectivement à Cambridge. Et effectivement, je me suis retrouvé au Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, le fameux DMTP, voilà, où il y avait Stephen Hawking. Et c'est vrai que la première fois où je l'ai vu. Alors, mais à l'époque, entendez, il est absolument pas connu du grand public. Il était connu du monde, petit monde de la physique théorique, parce qu'il avait déjà fait des travaux vraiment originaux sur les singularités, et puis il avait découvert l'évaporation quantique des trous noirs, ce genre de choses, voilà, donc il était connu. Mais pas du tout du grand public, parce qu'il n'avait pas encore écrit son fameux bouquin de vulgarisation, qui allait le rendre mondialement célèbre. Et donc, c'est vrai que la première fois où je l'ai vu arriver à un séminaire sur son fauteuil téléguidé, c'est quand même effectivement très très impressionnant. Voilà, donc je l'ai côtoyé pendant au moins les 3 mois de mon séjour. Puis après, je l'ai retrouvé plusieurs fois lorsqu'il venait en France donner des séminaires, etc. Mais c'est vrai que c'est un personnage incroyable, mais la communication a été quasiment impossible avec lui, si on n'était pas un proche de lui, parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il disait. Et voilà, donc j'ai eu toujours ce rapport. Donc à la fois beaucoup d'admiration pour tout ce qu'il a dû surmonter et sa créativité, voilà, avec des découvertes étonnantes, d'autres prises de position un peu plus contestables, mais c'est ça, hein, voilà, bien. Donc voilà, donc les trous noirs se trouvaient au cœur de nos problématiques. Donc une fois, moi, que j'ai calculé mon image 79, je suis passé à autre chose, mais toujours sur les trous noirs. Je me dis, mais finalement, d'autres signatures indirect des trous noirs. Et comme on commençait à soupçonner à l'époque, comme je l'ai déjà dit, qu'il y avait des trous noirs géants au centre des galaxies, je me dis, autour d'un trou noir géant, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Il doit y avoir des quantités d'étoiles qui tournent autour. Et il y a des étoiles qui, dans la vie, qui vont tomber dedans, bon, c'est peut-être pas très intéressant, elles disparaissent, mais les étoiles qui le frôlent, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a des forces de marée, c'est-à-dire des forces de gravité différentielle qui vont distordre l'espace autour du trou noir et l'objet qui pénètre dans cette zone est lui-même déformé. Et donc, ça c'est une équation. Et donc j'avais calculé la façon dont une étoile passant une certaine région critique qu'on appelle le rayon de marée autour d'un trou noir allait être finalement détruite par les forces de marée gravitationnelle engendrées par le trou noir. Du coup, l'idée c'est qu'une étoile détruite, ça fait quoi ? Ça libère du gaz, donc ça va libérer des rayonnements, donc ça peut donner une signature de l'existence d'un trou noir, parce qu'il n'y a que le trou noir qui est capable de briser des étoiles de cette manière. Donc je mets ça en équation, et là c'est là où j'ai vraiment commencé à vraiment collaborer avec Brandon Carter pour ces premiers travaux là, parce que pour ma thèse, je répète, hein, j'avais tout fait tout seul, c'est ce qu'il attendait de moi. Après, donc je vais le voir, je dis j'aimerais bien étudier les forces de marée gravitationnelle et l'effet que ça a sur une étoile. Alors on s'y est mis à deux. Alors il faudrait qu'il y ait une efficacité redoutable pour commencer à écrire les équations, etc., etc. Voilà. On a publié en 1982 notre premier article, Pancake Detonation of Stars Around Big Black Holes, c'est-à-dire pancake, ça veut dire crêpe en anglais. Ouais. Voilà, c'était l'introduction du concept de crêpe stellaire. Parce que nous avions découvert, par le calcul, j'entends, hein, à l'époque, c'était encore une fois de plus inaccessible à l'observation astronomique, nous avions découvert que pendant les quelques heures de traversée de l'étoile dans cette zone de danger, hein, de destruction, l'étoile était essentiellement aplatie dans le plan de son orbite. Et quelque chose qui s'aplatit, ça devient plus ou moins une crêpe. Voilà. Et puis à force de s'aplatir, on avait calculé que la température augmentait, et que la pression finissait par augmenter tellement que ça finissait par rebondir et exploser, en donnant une grande flambée de rayonnement. Alors, appelez ça donc les crêpes stellaires flambées, parce que j'ai toujours un petit peu aimé également. C'est, voilà, c'est des expressions un peu gastronomiques. Donc après, j'ai continué ces travaux, non plus avec Brandon Carter, mais avec, après, j'ai pris des étudiants, des collaborateurs, pour développer tout un ensemble de travaux liés à ces crêpes stellaires flambées. Notamment, est-ce qu'elles pouvaient vraiment faire des flambées spectaculaires en déclenchant des réactions thermonucléaires? Donc, j'ai travaillé, j'ai un étudiant spécifique de la physique nucléaire pour introduire après dans les simulations numériques. Alors, à l'époque, c'était commencé à devenir ces grosses simulations numériques, hein, pour voir si les étoiles explosaient vraiment sous forme de crêpes, et ainsi de suite. Et donc, c'est un travail qui m'a pris de nombreuses années, qui m'a beaucoup passionné. J'y ai passé ma thèse de doctorat d'État, à l'époque ça existait
1985.
Encore, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui l'habilitation, donc c'était en 1985, sur ce sujet-là. Et après, bon, j'ai travaillé plusieurs années sur ces crêpes stellaires et toutes les conséquences observationnelles. Et contrairement à l'image du trou noir où il a fallu attendre 40 ans, il n'a pas fallu attendre plus de 10 ans. Parce qu'effectivement, dès la fin des années... Dès les années 90, on a commencé, des télescopes à rayons X et autres, ont commencé effectivement à observer des sortes de flambées de rayonnement dans des noyaux de galaxies lointaines dites actives, où on savait qu'il y avait des trous noirs massifs, donc entourés d'étoiles, et on a commencé à comprendre qu'il y avait ce qu'on appelait des tidal disruption events, c'est-à-dire des événements de destruction par effet de marée d'étoiles, qui étaient finalement la concrétisation expérimentale de ce que j'avais calculé.
Jean-Pierre Luminet, j'aimerais savoir quelle est la réaction du monde scientifique et des astrophysiciens quand vous proposez ce genre de théorie avec un nom aussi fleuri. Comment ils réagissent et qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on vous demande d'être un peu plus sérieux et de vous concentrer sur des sujets qui sont porteurs, ou est-ce qu'on vous dit « Ah, c'est intéressant, poursuivons ».
Alors, les articles scientifiques eux-mêmes techniques, qui n'ont pas forcément les termes fleuris, ne serait-ce que parce qu'ils sont écrits en anglais, ça va, ils sont plutôt bien passés. En revanche, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé réellement, de façon beaucoup plus intense, mes activités de vulgarisation, puisque j'ai aussi cette passion pour la passation des savoirs, donc vous avez mentionné le premier livre que j'ai publié en 1987 de vulgarisation sur le trou noir, et qui était également le premier livre en français de vulgarisation sur le trou noir, qui effectivement a eu
un grand succès.
Un succès relatif à cette époque-là. Ça a été bien perçu du grand public, par une petite partie de la communauté, mais plutôt petite. Le reste, ça s'est pas forcément toujours, ça s'est plutôt fait à mon détriment. Mais ça, c'est les petites, comment dire, les petites choses qui se passent, je veux dire, dans le monde humain, des réactions humaines. Il peut y avoir des réactions, il y avait des réactions critiques aussi. Il faut dire aussi que les médias sont ce qu'ils sont. Donc, une fois que mon livre était paru et qu'il y a eu des gros papiers qui étaient parus dans des grandes revues, genre Paris Match, machin comme ça, avec des photos, le prince des trous noirs, machin comme ça, j'étais un peu embarrassé, moi, etc. Mais certains de mes collègues disent, oh là là, Luminet, quand même. Et donc, je dois dire que, au long de ma carrière, je ne vais pas me plaindre quand même, mais vis-à-vis des instances du CNRS et les comités, machin, etc., et là, ça m'a plutôt desservi. Ce qui est une forme d'hypocrisie, parce qu'après, on nous disait, mais la vulgarisation, c'est un aspect très important de la vie d'un chercheur, il faut en faire. Donc, j'en ai fait, je crois pas trop mal, et en fait, ça m'a desservi pour passer des grades que normalement j'aurais dû avoir bien avant. Hein. Vous imaginez pas le nombre d'années que j'ai attendu pour devenir directeur de recherche. J'étais chargé de recherche pendant très longtemps, et entre-temps, j'avais fait les travaux, notamment les travaux de topologie cosmique. Les crêpes, donc, le trou noir, ça, les gens avaient oublié, ça ne s'intéressait pas, mes simulations de trou noir. Les crêpes stellaires, pourtant, ça avait marché, hein, voilà. Mmh. Et puis la topologie cosmique, je veux dire, couverture de Nature en 2003, enfin, je n'en ai pas encore parlé, etc. Il a fallu que j'attende encore, non, pour... et j'étais freiné par mes activités de divulgation, l'écriture de mes essais, voilà. Donc, c'est vrai que les termes fleuris, que j'aime bien utiliser, univers chiffonné, crêpe stellaire flambée, etc., ça pouvait en agacer certains.
Et comment vous l'avez pris, justement, cette prise de retard relative par rapport à vos capacités, à vos connaissances?
Ben, on va dire que je l'ai prise avec philosophie, de toute façon, que pouvais-je faire d'autre, hein. C'est vrai que le chercheur, il a toujours besoin, comme tout être humain d'ailleurs, on a besoin d'une forme de reconnaissance, à tous égards. Donc le scientifique lui-même, une reconnaissance scientifique de ses travaux, etc. Je ne vais pas me plaindre de ce côté-là, parce que j'avais une reconnaissance internationale, voilà.
Jean-Pierre Luminet, on parlera un peu plus tard de ces travaux essentiels aujourd'hui pour la communauté scientifique de vulgarisation et de communication auprès d'un public plus large que la communauté des spécialistes. Oui. Ces années 80, si on y revient, c'est aussi des années d'échanges avec d'autres universités, notamment au Brésil. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Et je crois qu'il s'est passé quelque chose d'un peu particulier et d'un peu violent pour vous. Est-ce que vous pourriez m'en parler?
Oui, donc j'ai commencé à aller dans de nombreux colloques internationaux, en Inde, au Japon, ce genre de choses-là. Et puis, effectivement, au Brésil, j'avais des amis. En fait, il y avait des collaborations franco-brésiliennes assez importantes à l'époque, parce qu'il y avait des programmes spécifiques qui avaient été développés pour l'astrophysique. J'avais quelques-uns de mes meilleurs amis, un collègue de l'Observatoire de Paris, qui faisait partie de ces collaborations-là. Il m'avait dit... viens découvrir le Brésil, voilà. Et donc effectivement, j'ai eu des missions au Brésil, 2-3 mois, pour travailler avec des collaborateurs brésiliens, voilà. Donc j'ai adoré ce pays, cette ambiance, etc. Voilà. Alors bon, pour l'anecdote à laquelle vous semblez faire allusion, c'est que à la fin de mon deuxième séjour brésilien, au cours d'un voyage que je faisais, qui était plutôt d'ordre touristique, hein, comme ça, où j'étais allé voir les fameuses chutes d'Iguassu. Alors ça, c'était un retour à mes passions d'enfance géographique, où j'avais également fait la liste de toutes les plus grandes cascades du monde, avec toutes les hauteurs de toutes les cascades que je connaissais par cœur. Et donc là, c'était plus que que cascades, c'était la plus belle cataracte du monde, extraordinaire. Et donc, voilà, donc je suis allé ça. Et puis c'est vrai que donc, à la suite de cette visite, le soir rentrant à mon hôtel, j'ai été attaqué par 2 jeunes bandits pour me voler. Et instinctivement, bien que mes collègues brésiliens m'avaient prévu que si jamais j'étais attaqué, il fallait surtout que je réagisse pas. Instinctivement, je suis pas du genre à me laisser faire. Je me suis défendu et ils m'ont tiré dessus à bout portant avec. Voilà, donc j'ai reçu une balle qui a rebondi sur ma tempe, parce que c'est l'os le plus dur, hein, quand c'est perpendiculaire, donc ça va. Et puis une autre qui a traversé l'épaule. C'est évidemment des tout petits calibres, donc vous voyez encore ici grâce à ça. J'ai pas eu de dégâts majeurs dans l'épaule, puisque après, je me souviens, quand j'étais après à l'hôpital à Fosse d'Iguassu, avec une épaule énorme, etc., la première question que j'ai demandé au chirurgien, qui heureusement était là de garde, parce que juste avant, il y avait quelqu'un qui venait de se faire tuer, est-ce que je pourrais rejouer au tennis? Parce que je jouais au tennis de place. Passionné de tennis à l'époque. Il m'a dit peut-être dans quelques mois. Effectivement, quelques mois plus tard, j'ai pu rejouer au tennis, même s'il y a encore des petits débris qui restent dans l'épaule. Et quant à la tempe, ben, ça avait rebondi, donc ça avait fait une cicatrice, enfin, qui se voit toujours. Voilà. Le choc avait été assez fort, choc juste physique, hein, assez fort, puisque ma mâchoire avait tellement claqué que mes molaires s'est défendue. Mais au-delà de ça, bon, peut-être l'anecdote la plus marrante, c'est que l'histoire, je ne sais trop comment, c'était un petit peu répandu. Ben, en fait, mes hôtes brésiliens avaient prévenu l'Observatoire de Paris que j'avais eu cet accident. Et apparemment, des gens avaient cru que j'avais été tué. Et donc, quand je suis rentré 15 jours plus tard, en avion, j'ai encore des pansements, etc. Et puis, j'arrive à l'Observatoire, j'arrive directement à la cantine de l'Observatoire, au restaurant, et les gens me regardent avec stupéfaction. Mais tu es là,
que tu es mort. Ils ont vu un fantôme.
Bon, voilà. Alors après, est-ce que ça a eu une influence? Je pense que ça a eu une influence... Bon, je dois dire, je suis pas du tout peureux. Donc, à aucun moment, j'ai eu de frayeur, de choses comme ça, voilà. Mais j'ai bien senti que j'avais frôlé dans très peu de choses près, effectivement, une catastrophe, enfin, la mort, quoi. Bon, en tout cas, une infirmité, un handicap, etc., etc., voilà. Et donc, cela, forcément, ça aide un petit peu à réfléchir sur qu'est-ce qu'on a fait de sa vie jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on veut en faire, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que ça a eu sans doute une incidence un petit peu souterraine sur le développement ultérieur, plutôt du côté de ma vie privée que de ma vie de chercheur, et ainsi de suite. Mais ça n'a de toute façon fait qu'accentuer, ce qui fait plutôt l'objet de ces entretiens, mes activités créatives. Donc là, il n'y a jamais de temps à perdre pour créer, créons tant qu'il est jour. Voilà, et donc ça n'a pu que booster, enfin que voilà, que accélérer encore au plus mon désir de chercher de nouvelles choses à découvrir. Et donc c'était effectivement à la toute fin des années 80, c'était en 1989 si je me souviens bien. Après, j'ai passé une année à l'université de Berkeley en 1990 aux États-Unis, dans un donc, grand laboratoire d'astrophysique de l'université de Berkeley, où je dois dire, je ne suis pas senti particulièrement à l'aise. J'ai pas trop aimé le climat qui y régnait. Et c'était une époque en plus. Alors, ça a été une époque pour moi, sur le plan également professionnel, un petit peu de latence, parce que j'avais fini l'essentiel des travaux que je voulais faire sur les crêpes stellaires. Alors, même si après, je veux dire, moi, j'aime bien défricher un nouveau domaine auquel les gens n'ont pas encore pensé. Une fois que je l'ai défriché, je préfère passer à autre chose plutôt que de fouiller les détails et d'explorer. Ce sont les autres qui le font. D'ailleurs, c'est le signe que ce que j'ai pu proposer était pas intéressant, c'est que d'autres personnes se mettent à travailler sur le sujet. Donc, ça a été le cas pour les crêpes stellaires flambées. Moi, j'ai arrêté d'y travailler dessus, après quelques collaborations, ce genre de choses, au bout de quelques années. Mais après, c'est devenu une véritable industrie, puisqu'il y a eu d'énormes simulations des groupes entiers qui se sont mis, d'énormes simulations numériques beaucoup plus sophistiquées que ce que j'avais fait, qui ont retrouvé d'ailleurs les mêmes résultats, mais plus sophistiqués. Puis il y a eu surtout ces observations qui ont été faites, voilà. Mais donc, je me suis trouvé dans une période un petit peu de latence pendant 2-3 ans, avec ce retour des États-Unis, où je commençais maintenant à m'intéresser à un tout nouveau sujet, la topologie cosmique, c'est-à-dire les hypothèses sur la forme de l'espace. Importé dans le domaine de la cosmologie, qui décrit le modèle d'univers à travers les fameux modèles de Big Bang, l'espace en expansion au cours du temps, ce genre de choses, voilà. Mais l'espace lui-même, quelle forme il a? Est-ce qu'il est fini? Est-ce qu'il est infini? Ce genre de choses. Donc, les deux possibilités sont permises dans la relativité, mais c'est la relativité qui nous donne une réponse là-dessus. Il faut y rajouter des hypothèses supplémentaires qui viennent d'une discipline fascinante de la géométrie que l'on appelle la topologie, qui est l'étude des formes. Et grâce justement à ma formation de mathématiques, je me suis rendu compte que les cosmologistes traditionnels de l'époque ne connaissaient pas cette discipline-là et qui prenaient les hypothèses les plus simplificatrices possibles, c'est-à-dire la topologie que l'on appelle triviale, la topologie la plus ordinaire, alors qu'on pouvait imaginer des formes beaucoup plus subtiles, absolument compatibles avec tout ce que l'on connaissait de l'univers. Et là, je me suis dit, ce serait génial d'importer ces formes-là pour décrire des modèles d'univers un petit peu bizarres. L'idée derrière aussi, c'est d'abord d'ouvrir un champ qui était très peu exploré à l'époque, d'une part, et puis parce que je m'étais assez vite rendu compte que si on attribue des formes un petit peu tordues, que j'appellerai plus tard les univers chiffonnés, les espaces chiffonnés, on pouvait créer des illusions d'optique. Un peu comme les trous noirs le faisaient. Mais au lieu d'avoir des mirages de type gravitationnel, très localisés, juste autour du trou noir, par exemple, des déformations, là, c'est une déformation globale, une sorte d'illusion d'optique globale, un mirage topologique, parce que c'est la forme même de l'espace un peu bizarre, qui allait jouer le rôle d'une sorte de lentille déformante, qui allait brouiller notre perception de ce que l'on croyait être le réel. Par exemple, démultiplier les images de plusieurs sources, des galaxies que l'on pourrait voir à plusieurs exemplaires dans des endroits différents, à des époques différentes de la révolution. Donc moi, j'ai aimé un petit peu, dès le départ, ce côté un petit peu provocateur. Tout en restant dans la cosmologie du Big Bang relativement orthodoxe, je suggérais quelque chose qui ne l'était pas. Alors évidemment, ça paraissait iconoclaste. Donc, pendant des années, je me suis attaché avec des collaborateurs, Marc Lachaiseret, Roland Lehoucq, Jean-Philippe Buzyn, etc.
La dream team des astrophysiciens français, tous ces noms-là.
Des astrophysiciens, voilà. Et puis, un extraordinaire mathématicien américain qui s'appelle Jeffrey Weeks, très brillant, un très brillant esprit, qui ne connaissait pas la cosmologie, mais qui était le meilleur spécialiste de la topologie à l'époque. Donc, on a collaboré ensemble, voilà. Et le passage entre les années, le moment où j'ai commencé à y réfléchir, quand j'étais à Berkeley en 90, et le moment où j'ai commencé à publier le premier gros papier avec mon collègue Marc Lachaiseur en 95, ça s'appelle Cosmic Topologique, un petit peu le texte un peu fondateur d'un renouveau de cette discipline-là, il s'est passé 5 ans. Pendant ces 5 ans, j'ai très peu publié parce que j'explorais un domaine nouveau. Et donc finalement tout ça, ça s'est concrétisé de très belle façon, un petit peu inattendue, avec des observations en 2003 d'un télescope micro-ondes américain qui s'appelle WMAP, qui observe la structure de ce qu'on appelle le rayonnement fossile, cette lueur qui nous vient du Big Bang, la première lumière émise dans l'histoire de l'univers, qui nous parvient aujourd'hui, donc, sous la forme d'un rayonnement micro-ondes qui baigne le fond du ciel, dans laquelle on observe certaines structures. Et puis, des collègues américains qui, entre-temps, s'étaient intéressés au sujet, avaient émis certaines hypothèses sur des signatures topologiques, et ainsi de suite. Et puis, il se trouve que, dans les données expérimentales délivrées par ce télescope américain, donc en 2003, il y avait des petites anomalies qui n'étaient pas bien expliquées par ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie, qui faisait évidemment l'hypothèse d'une topologie particulièrement simple. Voilà. Et donc on a fait une proposition qui a fait la une de la revue Nature, avec une forme d'espace particulière, l'espace dodécaédrique 2 points carrés, une forme fascinante sur le plan de la géométrie, a priori assez surprenante, mais qui pouvait rendre compte à l'époque de cette anomalie. Donc là, effectivement, ça a été il y a eu un impact médiatique important, non seulement dans les revues scientifiques du monde entier, mais aussi dans les médias, parce que, comme ça avait fait la une de la revue Nature, les images que nous avions mises, des visualisations de ce type d'espace, c'est difficile à faire, donc avait mis une image approchée, ça ressemblait un petit peu à un ballon de football. Voilà. Et donc, un journaliste britannique avait utilisé cette image du soccer ball universe. Alors, évidemment, ça avait eu un impact, surtout dans les pays passionnés de football, au Brésil, en Italie, c'était de la folie. Il y avait tous les journaux avaient publié des articles sur ce modèle d'univers.
Jean-Pierre Luminet, avec ses travaux de recherche concernant l'univers chiffonné, l'espace dodécaédrique de Poincaré, qui suggère que l'univers serait moins grand que ce qu'on en voit, est-ce que vous nous dites, d'une certaine façon, avec vos travaux d'astrophysique, à l'instar du dramaturge espagnol du XVIIe siècle Calderón, que la vie est un songe. Et qu'on passe notre temps à voir des fantômes, ouais, et des images qui n'existent, ouais, finalement.
Bon, évidemment, j'aime ce terme de songe pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a la phrase de Calderón, la vie est un songe. Il y a cette impulsion qui m'a toujours poussé vers la rêverie. Il y a aussi l'ouvrage extraordinaire du grand Kepler, qui est un de mes personnages historiques le favori, parce que c'est l'un des plus fascinants, qui a écrit un ouvrage incroyable qui s'appelle Le Songe, précisément. Il y a les rêveries dont parle Bachelard, celui qui parlait des doubles profondeurs du cosmos et de l'âme humaine. Donc oui, il y a aussi un ouvrage, d'ailleurs, d'un de mes collègues, un ouvrage remarquable qui s'appelle « Le chiffre et le songe ». Et ça illustre bien, finalement, la part des choses. Voilà, il y a le songe, c'est-à-dire c'est le côté créateur imaginatif. Quand on est un physicien théoricien, où on explore des voies nouvelles, il faut faire preuve d'imagination. Il faut inventer quelque chose, voilà. Et une part de l'invention se fait dans le rêve. Ça peut être le rêve éveillé, bien entendu, une forme de songe, voilà. Ça peut parfois même faire partie d'un songe nocturne. Parfois, le cerveau, quand vous vous attachez à un problème, il travaille en tâche de fond. Et des fois, finalement, au cours de la nuit, il a travaillé en tâche de fond. Puis le matin, vous vous réveillez, vous dites, tiens, un machin comme ça. D'ailleurs, c'était un petit peu... Mais oui, avec mon espace de dodécaédrique de Poincaré. Parce que quand on avait étudié avec mes camarades et collaborateurs des topologies possibles, il y avait un foisonnement, il y avait des centaines de topologies bizarres possibles, etc. Pourquoi choisir après la topologie de l'espace de dodécaédrique de Poincaré? Ben, c'est un truc à la fois venant d'une forme de songe que j'avais fait. C'est un petit peu flou dans ma mémoire, mais je me souviens aussi qu'à l'époque, j'avais une maison de campagne où j'entretenais un potager, je bêchais dans mon jardin et je me souviens qu'effectivement m'est venue cette idée que l'espace dodécaédrique de Poincaré, qui sur le plan purement géométrique me paraissait très élégant parce que ça ressemblait au fameux dodécaèdre que Platon avait mis pour expliquer la structure géométrique de ce qu'il appelait le cinquième élément, la quintessence, un élément lié au ciel, à l'éther, etc. Évidemment, c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'avait fait Platon, mais ça y ressemblait un peu. J'avais eu une sorte de rêve éveillé que c'était peut-être celui-là qui s'adapterait le mieux aux données. Et donc, j'en ai parlé à mes collaborateurs quand l'article des données expérimentales de WMAP est paru. rue, je leur ai dit, parmi tous les modèles qu'on a proposés, vous voulez pas qu'on essaie celui-là ? Pourquoi ? Il n'y a aucune raison. Je dis, mais si, faisons les calculs. Et les calculs ont montré qu'effectivement, ça marchait incroyablement bien. J'ai pas dit que c'était la vérité, parce qu'entre-temps, après, il y a eu des travaux développés, plus subtils, qui ont montré que c'était pas forcément le modèle de Poincaré qui tenait le mieux la route. Mais en tout cas, à l'époque, ça avait marché. Mais en tout cas, c'est cet aspect dont vous venez de souligner à juste titre, une sorte de rêve, tantôt éveillé, tantôt pas éveillé, qui nous fait progresser.
Jean-Pierre Luminet, vous êtes un théoricien. Finalement, l'observation compte assez peu dans vos travaux. Quelle importance, tout de même, ont les observations dans vos travaux de théoricien ?
Ben, les observations, elles sont un jour le fondamental. Heureusement que, contrairement à moi, il y a des astronomes qui font des observations astronomiques. Parce que c'est très joli de faire des grandes théories. Mais si on prétend faire de la physique, décrire plus ou moins bien le monde réel, même à travers des modèles mathématiques et théoriques, il faut bien qu'à un moment, il y ait des expériences et des observations, soit qui réfutent les choses, soit qui consolident. Ça prouve jamais. Mais disons que ça rend plausible des modèles théoriques. Donc ça joue un rôle fondamental. Je l'ai dit, mon rapport direct, moi, aux observations, il est absolument nul, avec l'expérience de ma petite lunette télescopique que j'avais faite quand j'avais 15 ans et que j'avais abandonnée. J'ai pas dit aussi ma toute première expérience, quand je suis vrai, plutôt professionnel, quand je suis arrivé à l'Observatoire de Paris pour faire ma thèse, etc. J'avais évidemment des collègues dans le groupe qui faisaient des observations astronomiques. Et l'un d'entre eux m'a dit, tiens, j'ai une mission d'une semaine à l'Observatoire d'Haute-Provence, avec le grand télescope 293 cm, est-ce que tu veux venir avec moi pour t'initier à ça? On verra si ça te plaît, etc. Donc j'y suis allé, j'ai passé une semaine cauchemardesque, mis à part le Bossieux provençal, etc. Je veux dire, à me geler toutes les nuits. Non, parce qu'on faisait des temps de pause incroyablement longs, parce qu'on devait observer des objets qu'on appelle des quasars pendant plusieurs heures de temps de pause. Donc il y avait, la seule chose qu'il y avait à faire pendant toute la nuit, c'était de temps en temps, c'est ce dont j'étais chargé, de refroidir l'appareil. On avait à l'époque, on n'avait pas de caméra CCD, ça n'existait pas encore. On avait des caméras électroniques. Voilà. Les caméras électroniques. Il fallait les refroidir à l'azote liquide toutes les heures. Donc, la seule chose à faire, c'était verser de l'azote liquide dans la caméra électronique pendant une semaine, 8 nuits d'affilée. Alors, quand je suis revenu, j'ai dit, plus jamais je ferai d'observation astronomique. Heureusement qu'il y en a qui en font. Voilà. Et donc, après, le rapport à l'observation astronomique, c'est que je suis plus ou moins, évidemment, les résultats expérimentaux. Je ne les suis pas de très près, mais je les suis quand même. Donc, j'ai été bien heureux, effectivement, que l'on m'ait appris que des crêpes stellaires flambées avaient finalement été mises en évidence expérimentale. C'est une collègue qui me l'a appris. Et donc après, je me suis un peu plus penché sur ces données-là. Et après, évidemment, les résultats des télescopes à micro-ondes dont j'ai parlé pour la topologie cosmique, là, ça a joué un rôle majeur. Puisque s'il n'y avait pas eu ces résultats-là, jamais on n'aurait pu publier un article faisant la une Nature. On ne publie pas un article purement théorique sans avoir un soutien, un support expérimental derrière.
Merci beaucoup Jean-Pierre Luminet, à demain.
Merci à vous, à demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Antoine Beauchamp avec Jean-Pierre Luminet. À voix nue. Réalisation Asia Khalid, prise de son Christophe Papon, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr.